Dlatego nie, chyba ona prawdy, ona prawdy, że Fatima, pour nous bien préparer l'année prochaine, on prend son premier des apparitions. Mais on voudrait faire à partir d'aujourd'hui une série de conférences un peu plus, tout petit peu davantage poussées, si je peux dire comme ça. Le sujet des conférences de cette série de conférences sera le problème moral et pédagogique de la mode dans l'enseignement pontifical, pardon, dans les enseignements pontificaux de Pie XII. D'accord? Ça serait un peu plus difficile, mais pas plus difficile que ça. Tout d'abord, une petite biographie de Pie XII. Alors, Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, on se souvient seulement de Eugenio Pacelli, parce que... Il est né à Rome le 2 mars 1876. Il est mort à Castel Gandolfo le 9 octobre 1958. Il est élu pape le 2 mars 1939 sous le nom bien sûr de Pie XII. Il est né dans une famille de l'aristocratie du Saint-Siège. Étudiant et prêtre brillant, il progresse dans la curie en tant que juriste dans la diplomatie vaticane. Nonce apostolique pendant la Première Guerre mondiale en Bavière, puis en Allemagne. Négociateur de plusieurs concordats, il devient en 1929 secrétaire d'État et créé cardinal par le pape Pie XI. Il travaille ensuite pour Pie XI à la lettre de condamnation du nazisme, mit brennender Sorge, j'ai oublié ce que ça veut dire exactement. C'est contre le nazisme. Ses capacités de diplomatie à la confiance de Pie XI, qui meurt en 1939, en font le favori du conclave, qui le lie peu avant le début de la guerre. Tentant de maintenir la paix, il maintient le Vatican dans une neutralité qui condamne les excès de la guerre, surtout en Pologne, dit l'auteur. Sans nommer explicitement le nazisme, et pourquoi ? De peur d'aggraver les répressions. C'est mon pourcent. C'est la fameuse silence de Pie XII, qui est la silence prudente. Lors de l'occupation de Rome par les nazis, Pie XII agit pour éviter les bombardements de la ville et pour protéger les juifs menacés. Ça, on oublie assez rapidement. Cela lui vaut la reconnaissance de plusieurs personnalités et dignitaires juifs après la guerre. Mais c'est fini assez rapidement. Maintenant, c'est tout contraire. Après la guerre, il s'oppose au régime communiste qui poursuit la répression des catholiques. Durant son long pontificat, Pie XII affirme bien sûr le dogme de l'Assomption. Il publie 42 encycliques, effectue 33 béatifications. Il met fin, ça vient de Wikipédia, il met fin à l'expérience des prêtres ouvriers, c'est bien. Ensuite, il prend position sur les questions différentes. Par exemple, questions scientifiques, aussi sur la morale, la contraception, et sur les évolutions politiques, utilisant les médias modernes, radio, télévision. On a parlé de Fatima, c'est important de le rappeler que... Dit l'auteur, que au moment de la proclamation du dogme de l'Assomption, Pie XII aurait eu trois fois dans le jardin du Vatican la vision du miracle du soleil de Fatima.
Il a été ordonné avec le jour de la première apparition de Fatima.
Je sais pas. Ça va? C'était une introduction rapide. Mais c'est toujours bien de savoir qui nous parle. Mais en fait, pourquoi Pie XII, ce pape, et non pas un autre, que nous choisissons pour notre guide dans le domaine un peu délicat de la mode et de la modestie chrétienne? La réponse est toute simple, parce que Pie XII s'intéressait à tout. Il ne pouvait pas négliger ce secteur important de la vie publique qu'est la mode. Voilà. En 1957, il adressa un discours aux membres de l'Union latine de la haute couture. Mais d'autres auditoires reçurent sa pensée et ses recommandations. Par exemple, les jeunes filles de l'Action catholique, femmes catholiques, mais chrétiennes. La mode, si nous le voulons ou pas, est omniprésente. Donc le problème de la mode touche, intéresse un vaste public. Par exemple, d'abord ceux qui travaillent pour propager, pour lancer la mode. Par exemple, les techniciens, les modélistes, les couturiers, couturières, professeurs et directrices d'écoles de confection. Ensuite, tous ceux qui collaborent au lancement d'une nouvelle mode, par la presse, cinéma, la télévision, aujourd'hui l'Internet. Mais c'est pas tout. C'est aussi les parents, les éducatrices, les éducateurs qui s'appliquent à éduquer, à élever la jeunesse chrétiennement, que la mode aussi touche. Et enfin, les chrétiens et chrétiennes qui, pour leur propre compte, s'efforcent de régler leur conduite sur cette vision de la modestie chrétienne. Alors, ça touche tout le monde. Et voici un court témoignage, c'est pas Pidouce qui parle, parce que c'est un entretien entre deux maris. Le mari qui écrit à son épouse peu avant leur mariage. Je cite, « Dans ce monde où l'on peut rarement parler de Dieu, il faut le, avec un L majuscule, il s'agit du bon Dieu, il faut le faire rayonner par l'intensité avec laquelle on le porte en soi. Il faut qu'il soit tellement en nous que nous le manifestions infiniment mieux que par des paroles. Toutes nos pensées, tous nos actes doivent converger vers cela. Notre attitude dans le monde, nos efforts de vie intérieure. Enfin, pour avoir de l'autorité, il faut, dans la partie extérieure de notre vie, faire toutes choses aussi bien que les autres. Je vais vous étonner, dit Marie à son épouse. Vous choquer peut-être. Mais pour que vous puissiez avoir l'influence que nous souhaitons pour le bien, il faut qu'on dise de vous, Madame XY est très bien habillée. Si vous voulez bien, je donnerai le plan général, parce que comme je vous ai dit, on ne pouvait pas tout voir en une seule session ou cette fois. Mais je vous donne déjà le plan général. Il y a trois parties. Conception. En deux chapitres, on va voir aujourd'hui le chapitre premier, c'est ça, la dignité du corps humain. Voilà, ça va vous étonner pourquoi on commence comme ça, mais Pidouce commence avec la chose le moins importante, ensuite il va monter plus haut. D'abord, la dignité. Dignité du corps humain. Chapitre 2, ça sera comme ça. La morale chrétienne, parce qu'on verra la prochaine fois. La morale chrétienne, j'appelle bien. Deuxième section, ça sera enseignement pontificaux relatif aux vêtements et à la mode. Enseignement pontificaux. Relatif aux vêtements. Et la langue. Enfin, troisièmement, on va parler de la directive, quelque chose de pratique. Sinon, ça ne marche pas. S'il n'y a pas quelque chose de pratique, on reste dans la directive. Ça vous va pour le plan général? Aujourd'hui, on va voir cette partie-là, chapitre premier, l'enseignement de l'Église sur la mode fondée tout d'abord sur la doctrine concernant la dignité du corps humain. Nous étudierons quelques déclarations de Pilose sur ce point. Ce que nous allons voir sur le bien aujourd'hui et lors des réunions suivantes, cela contient une doctrine remarquable, j'espère, avec un double profit pour nous. D'abord, c'est un enseignement lumineux. Non, aujourd'hui, il nous manque tout de suite des enseignements lumineux d'aujourd'hui. Tout est un peu ténébreux. Enseignement lumineux sur la vraie façon d'envisager ce problème. Et deuxième profit, ça sera un haut encouragement. Bon, je vais me répéter un tout petit peu, mais c'est pas grave. Un encouragement, d'abord pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur, on a déjà vu. Ensuite, pour tous, cet enseignement vise tout spécialement les parents, les catéchistes et tous ceux à qui incombe l'éducation chrétienne des enfants, des jeunes et des adultes. Bien, nous sommes dans la section première, fondement. Chapitre 1er, la dignité du corps humain. Et un petit plan pour aujourd'hui. Ça concerne ça, c'est ce que je vous ai écrit. D'abord une petite introduction. Ensuite, on va voir que l'homme est à la fois matériel et spirituel. L'homme est à la fois matériel et spirituel. Vous êtes d'accord? Très bien. On va donner quatre raisons tout ça. On va tout expliquer, n'ayez pas peur, les enfuyez pas. Le corps humain est l'habitat et l'instrument de l'esprit. On va tout expliquer. Le corps humain, c'est pas très compliqué. Et l'habitat comme l'habitat est l'instrument. L'instrument de l'esprit. Deuxièmement, l'esprit incarné, je vais expliquer, vous allez voir ce que ça veut dire. L'esprit incarné, en fait c'est l'homme qu'on peut appeler ainsi, l'esprit incarné et l'image de Dieu. De Dieu. Ça, c'est la version de Dieu. Il n'y a rien de mal sans Nicolas. Hein? Ça serait si comme ça, oui.
Dans l'autre sens, c'est. Voilà.
Ça, je ne sais pas si initié dans ce domaine. Ensuite, esprit et matière, l'homme, on peut dire comme ça. Pas seulement l'image de Dieu, mais aussi, il est fait pour Dieu. Il est fait pour Dieu. Enfin, quatrièmement, quatre raisons. Dieu n'a pas fait mortel notre corps. Important. Dieu n'a pas fait mortel notre corps.
notre corps est mortel, on ne peut pas, comme disent, rejeter la force sur le bon Dieu. Et du coup, on va voir le chrétien, on va monter plus en le chrétien, j'appelle le chrétien, aimant Dieu Christ, libre. Et temple du Saint-Esprit. Bien. Ou bien d'avoir des choses à donner, n'est-ce pas? Une traduction. Dans les allocutions aux formations sportives, aux conventions typiques du sport, à des médecins, etc., sans être là que Pilos a évoqué la doctrine sur le corps humain. Sur le corps humain. Voilà ce qu'il a dit. L'Église a toujours témoigné à l'égard du corps humain une sollicitude et des égards que le matérialisme, dans son culte idolâtrique, n'a jamais eu. Ce système, matérialisme, ne voit, ne connaît du corps que la chair mortelle. Bien différente est la conception chrétienne. D'après elle, le Seigneur a fait du corps humain son chef-d'œuvre dans l'ordre de la création visible. Il l'avait destiné à croître ici-bas pour s'épanouir immortel dans la gloire du ciel. On va tout expliquer partie par partie. S'il l'a associé à l'esprit, c'est qu'il voulait faire goûter à l'âme le charme des œuvres divines et lui permettre de contempler dans ce miroir leur commun créateur, de le connaître, l'adorer, l'aimer. Ce n'est pas Dieu qui a fait mortel notre corps. C'est le péché. Si à cause du péché, le corps tiré de la poussière doit retourner en poussière, le Seigneur l'en tirera de nouveau pour lui rendre la vie, après la résurrection du corps. Même réduit en poussière, l'Église les respecte et les honore. Ces cadavres destinés à ressusciter un jour. Fin de citation. Mais pourquoi l'Église a-t-elle un si grand respect pour le corps humain? En fait, pour deux raisons. Parce que l'homme est à la fois matériel et spirituel, et que le chrétien, est membre de notre Seigneur, membre du Christ, et temple du Saint-Esprit. L'homme est à la fois matériel et spirituel. D'abord, Pilos nous devra considérer l'homme sous son double aspect de corps et d'esprit. Dans son unité à la fois matérielle et spirituelle. Et cela pour quatre raisons. On va passer de choses qui sont moins importantes, moins parfaites, jusqu'à peu plus tard. D'abord, le corps humain est l'habitacle et l'instrument de l'esprit. Dieu communiqua au corps humain, formé de matière, du démon, une âme immortelle et immatérielle. Dieu a fait l'homme ni pure matière, comme une pierre, ni pur esprit, comme un ange, mais esprit dans un corps de chair, ou esprit incarné. D'accord? Esprit incarné. Sinon, alors, l'homme a besoin de la matière. Il a besoin. La matière du monde extérieur, de l'extérieur, voilà, que je puisse vous voir, vous êtes de l'extérieur, j'ai besoin justement que vous ayez le corps, que je puisse vous percevoir. Et vous aussi, vous avez besoin de me voir, pour savoir que je suis là. La matière du monde extérieur est la matière qui compose notre propre corps. Alors, pour être pleinement homme, pour pouvoir s'exprimer et se manifester aux autres, on a besoin de la matière. Voilà. Moi, j'ai besoin de la langue, vous avez besoin des oreilles. Alors, Pascal, qu'est-ce qu'il a fait? Pascal, c'est pas Monsieur Henri Pascal, mais c'est Pascal, tout simplement. On connaît ça, mais je ne connaissais pas toute la citation. L'homme n'est ni ange ni bête. Et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. C'est une citation plus complète. La matière n'est pas une prison pour l'esprit. Voilà, c'est pas une prison. Même les activités les plus immatérielles, l'homme ne peut les accomplir ici-bas qu'avec l'aide de la matière. Voilà. Exemple. Pas de science sans cerveau, sans laboratoire. Pas de vie esthétique sans l'œuvre d'art. Pas de poésie ni de pensée sans langage. Enfin, pas d'amour du prochain sans l'action en service du prochain. Alors, on a besoin de la matière. C'est ce qu'il disait le pape Pie XII. Le roi de l'univers, il s'agit bien du bon Dieu, pas de l'homme. Le roi de l'univers, pour couronner dignement la création, forma du limon de la terre l'œuvre merveilleuse du corps humain. Et soufflant sur son visage, lui communiqua un souffle de vie qui fit du corps l'habitation et l'instrument de l'esprit. Il éleva par lui la matière au service immédiat de l'esprit. Et par là, rapprocha et unit le monde spirituel et le monde matériel. Passons au deuxième point. L'esprit incarné, c'est-à-dire l'homme, est l'image de Dieu. Est l'image de Dieu. Citons Pie XII. Esprit et poussière unis pour former une image de l'infini. C'est bon. Esprit et poussière unis pour former une image de l'infini, du bon Dieu. Vivant dans le temps et dans l'espace, et pourtant orienté face à un but qui le dépasse tous deux, qui dépasse et le temps et l'espace. Partie de l'univers créé, voilà, on est partie de l'univers créé, vous êtes d'accord, est destiné cependant à partager la gloire et la joie du Créateur. En associant la matière à l'esprit, Dieu a créé l'homme à son image comme à sa ressemblance. L'homme ne peut connaître, ne peut adorer, ne peut aimer son Créateur que par les choses visibles, pas le faire autrement. Ce sont comme des traces dans lesquelles on peut contempler leur hauteur. Est-ce que jusqu'à là, est-ce que ça va? Ça va, ça va? Alors, ce n'est pas seulement le peuple juif avant la venue de notre Seigneur, ni uniquement les chrétiens, c'est pour bien comprendre, mais ce sont tous les hommes qui peuvent connaître le bon Dieu. Tout le monde a cette capacité. Voilà, pour connaître le bon Dieu, c'est pas nécessaire d'être catholique ni d'appartenir au peuple juif avant notre Seigneur. Voilà. Et si on a cette capacité de connaître, on a en même temps la capacité d'adorer le bon Dieu, d'adorer de l'aimer. Alors, ils ont, cela veut dire tout le monde, tous les hommes, ils ont pour cela qu'à écouter Dieu. Mais comment est-ce que le Dieu parle? Pas comme ça, pas comme votre serviteur, sans des exceptions. Alors, écoutez Dieu qui leur parle à travers le livre ouvert que la création. Alors, citons Psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains, le firmament, l'annonce. Voilà ce livre ouvert de la création qui parle du Créateur. Le monde visible nous permet d'entrevoir quelque chose de Dieu invisible. C'est mieux. C'est-à-dire la chose qui est moins parfaite nous fait connaître quelque chose, quelqu'un qui est plus parfait. Passons au point 3. Alors, esprit et matière de l'homme est fait pour Dieu. Dieu, c'est pas seulement l'origine de l'homme, mais aussi c'est son but. Alors, toujours Pie XII. Maintenant, c'est son allocution au médecin allié. Médecin allié. 1951. Esprit et poussière unis pour former une image de l'infini. On a vu tout à l'heure. vivant dans le temps et dans l'espace, et pourtant orienté face à un but qui le dépasse tous les deux, par fille de l'univers créé et destiné cependant à partager la gloire et la joie du Créateur. Voilà, c'est notre but. En fait, c'est une belle définition de l'homme. L'homme est une image de Dieu. Il est un être intelligent, en principe, formé de matière et d'esprit, qui peut, à travers les œuvres de Dieu, des œuvres matérielles, contempler celui qui le dépasse, qui dépasse en fait la création. Et aussi l'homme. Et qui, en même temps, est auprès de lui. C'est magnifique. Il nous dépasse. Il y a un mot qui dit transcendant, qui nous dépasse, mais aussi il est tout près de nous. Grâce à son intelligence, l'homme peut découvrir que Dieu est non pas seulement principe premier, mais aussi fin suprême et dernière de l'homme. Dieu, que nous savons tous, nous a fait pour lui. Voilà. C'est au contraire à ce que voudrait nous dire le Vatican II. Alors, on a dit plus ou moins que le monde a été créé pour l'homme. C'est fort. C'est pour Dieu. Non. Alors, Dieu nous a fait pour lui. Et pas seulement pour que nous le servions, mais pour que lui-même soit notre lumière, lui, amour, paix, notre béatitude éternelle. Et c'est pour cela, on revient encore, parce qu'on est déjà un petit peu éloigné dans l'image, peut-être. C'est pour cela que le corps de l'homme n'est jamais pleinement satisfait ici-bas, jusqu'à ce qu'il ait trouvé son repos en Dieu. Alors, l'action appelle la réaction. Action, c'est Dieu qui nous crée pour pouvoir nous communiquer son propre bonheur. Et notre réaction, ça devrait être que l'homme doit orienter toute chose à la gloire du bon Dieu, s'il veut être heureux. Sinon, il ne sera pas heureux. Numéro 4. Dieu n'a pas fait mortel notre corps. Important de comprendre. D'après le texte de l'Augustin de Pylos, en Médecin, cité tout à l'heure, le bon Dieu a fait du corps humain son chef-d'œuvre dans l'univers visible. Il l'avait destiné, disait Pylos, à croître ici-bas, puis à s'épanouir dans la gloire du ciel. Ça concerne nos premiers parents, mais aussi S'il était sage, c'est-à-dire le même sort, nous adorerait aussi. Alors la mort et toutes les souffrances physiques et morales sont entrées dans le monde à cause du péché et de ses conséquences. Bon, péché originel que nous héritons tous de nos premiers parents, et en plus nos péchés personnels. Et aussi la triple convoitise qui est le trait du péché, convoitise de la chair, des yeux et de l'orgueil. Voilà, ce sont des conséquences du péché. Et l'homme en reste profondément marqué en sa nature. Ça ne détruit pas sa nature, on n'est pas protestant, mais il est marqué, on le sent très bien, même si on se confesse de temps en temps, souvent, on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous attire davantage vers la terre que vers le ciel, en soi, si on l'espère. Donc la triple convoitise. Alors l'homme en reste profondément marqué en sa nature. Et Satan, bien sûr, ne manque pas de l'extérieur. Et seul le péché éloigne de Dieu et met obstacle pour rendre impossible la vie éternelle, vie avec Dieu. Alors qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, c'est le malheur plus grand, un plus grand malheur ou pas possible. Alors, la plus grande peine qu'il y a en enfer sont pas de peines du feu, etc., mais c'est en fait qu'on est privé du bon Dieu. On sait bien que on se rend compte que le bon Dieu est notre pain, on ne peut pas l'atteindre. C'est comme si on était dans le train. Parfois, on a des rêves comme ça. On arrive dans un train, on peut arriver quelque part, mais on n'arrive jamais. C'est un peu ça. On devrait déjà être arrivé, par notre faute, on n'est pas arrivé. Alors, être fait pour Dieu et manquer ce but. Ça, c'est l'enfer. C'est la plus grande peine de l'enfer. Et toute la faute, si on a malheur de nous y trouver, qu'à Dieu nous plaise, toute la faute est à nous, pas à Dieu. Elle vient de notre esprit rebelle, de la dureté de notre cœur, de la sensualité de notre chair, de notre mauvais vouloir. Nous cessons de correspondre à l'action de Dieu. Nous lui échappons, nous l'oublions, nous glissons hors de sa main. Alors nous tombons. Osée, c'est-à-dire un prophète de l'Ancien Testament, qui osait de dire, c'est de nous qui vient toute la perte, et c'est du Dieu de miséricorde que vient tout notre secours. Alors Dieu n'a pas fait mortel notre corps, la faute est à nous. On va assez rapidement, c'est incroyable. Vous n'avez pas de questions jusqu'à là? On continue. On a passé au point 2. Maintenant, le chrétien, membre du Christ, est temple du Saint-Esprit. Citons largement Pilouze. Pilouze, c'est toujours allocution. Alors, c'est l'allocution au congrès scientifique du sport. Congrès scientifique du sport, 52. Élevé à l'honneur d'être l'habitation de l'esprit. Premier. Le corps humain était prêt à recevoir la dignité de temple même de Dieu. Avec les prérogatives, on va tout expliquer maintenant. Avec les prérogatives qui conviennent à un édifice à lui consacrer, et même de plus haut encore. De fait, le corps appartient au Seigneur. Nos corps sont les membres du Christ. Ne savez-vous pas, c'est pas votre serviteur qui le dit, ni pape Pilouze, mais saint Paul. Ne savez-vous pas que votre corps est un temple de l'Esprit Saint qui est en vous, qui vous a été donné par Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. C'est la citation du premier épître aux Corinthiens. Alors, la grâce suppose la nature. Voilà, c'est comme une fleur, qu'il faut se mettre la graine d'une fleur, qu'il faut planter quelque part. Se promener dans l'air, sauf si je me trompe. Non. Il n'y a pas de fleurs qui poussent comme ça dans l'air. On peut toujours les planter dans la terre. Alors, la grâce suppose la nature. Le corps, habitat de l'esprit, est prêt à être élevé, on a vu. Au plan surnaturel, au niveau de la vie chrétienne. Le plan naturel ne s'oppose pas au plan surnaturel. Au contraire, il le prépare. Alors l'Église, après sa fondation, ne veut pas supprimer la nature. On nous dit, les ennemis de l'Église nous disent, vous voulez supprimer la nature. Non, c'est pas vrai. L'Église, avec son fondateur, veut la sanctifier. Sanctifier, c'est pas pareil. C'est mieux. Notre Seigneur, par qui tout a été créé, est venu restaurer et achever le plan de la création d'une manière suréminente. Voilà. Ce n'est pas lui qui a gâché le plan, c'est nous. Il le refait. Chrétien, membre du Christ. De toute éternité, Dieu veut que tous les hommes non seulement partage sa gloire et sa charge, mais aussi qu'il partage sa vie intime. C'est plus. C'est pour cela qu'il nous a fait renaître par la foi et le baptême. Par le baptême, tous nous sommes devenus, jusqu'à dans notre corps, important, jusqu'à dans notre corps, les membres visibles de ce corps mystique. Le corps mystique, c'est quelque chose de visible, alors ça va marcher. Ça va aussi concerner notre corps. Corps mystique, dans notre Seigneur et la tête. C'est pas compliqué. Et le chrétien est temple du Saint-Esprit. Citation de Saint Jean, chapitre 6. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Est-ce que notre Seigneur signifie et opère par le Saint-Sacrement? Voilà. C'est ce que notre Seigneur signifie et opère par le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Alors, il veut le faire perdurer, nous faire demeurer en lui, comme lui en nous. Deux questions. Comment notre Seigneur demeure-t-il en nous? Bon, il demeure en nous comme il demeure au ciel, ressuscité, glorieux, agissant en nous par le Saint-Esprit. Et de notre côté, comment pouvons-nous demeurer en lui? Alors, notre Seigneur veut que nous demeurions en lui comme lui demeure en nous. C'est ce qu'il nous a dit en fait. C'est-à-dire comme le Père, Dieu le Père veut nous voir en lui. Que nous soyons fils en son fils. Bien. Alors, par une adhésion de foi, foi amoureuse, qui est liée à l'amour, nous pouvons demeurer dans son esprit. Dans son esprit. Esprit Saint. Esprit Saint veut nous tenir en lui, en Esprit Saint, brûlant, rayonnant de l'amour. Rayonnant d'amour, pardon. Car les tièdes, ceux qui sont ni chauds ni froids, il est bon. Pie XII dit que nous sommes des temples de Dieu vivant. Important. Avec les prérogatives, cela veut dire que ce sont des privilèges qui sont attachés à une dignité, avec les prérogatives bien plus hautes que celles qui conviennent à un édifice à lui consacré. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça marche? Est-ce que vous comprenez?
Je crois avoir compris que
oui.
On est encore plus important qu'une église.
Oui, c'est quelle sorte? Et pourquoi? Et pourquoi?
Parce qu'on est une pierre parmi les pierres.
Je ne sais pas, c'est ce que vous l'avez dit, mais
est-ce qu'on fait partie du corps mystique? Oui, d'accord.
Pas seulement. C'est bien. Mademoiselle? Vous avez une idée?
Donc,
c'est
le temple du Saint-Esprit.
Dans la messe
de dédicace, c'est terrible.
C'est plus simple que ça. Voilà. Alors, cela se comprend. Car à quel sanctuaire a-t-il jamais donné le pouvoir de connaître Dieu?
À nous. Parce que les pierres ne peuvent pas connaître
voilà.
Dieu, mais nous, on peut le connaître.
Voilà. De pouvoir brûler de leur unique amour. Voilà. Il ne s'agit pas de parler à l'église, c'est pas ça ce que je veux dire. D'accord? Nos corps sont les demeures du Saint-Esprit. Ils sont consacrés à lui. Et sans cesse, ils sont restaurés. Restauration à chaque communion, en fait. Restauration à chaque communion de notre être spirituel. Donc, nos corps, ils peuvent, ils doivent faire aussi rayonner cette sainteté acquise. Toujours Pie XII. Glorifiez Dieu dans votre corps, temple de l'Esprit Saint. Alors, il disait en formation sportive d'Italie. Ne reconnaissez-vous pas, là, cher fils, la parole qui retentit si souvent dans les psaumes? Il écoute. Bon. Louez Dieu, glorifiez-le dans son temple saint. Du corps humain aussi, on doit dire à votre demeure combien la sainteté Seigneur. Oui, important. Elle réclame la sainteté, cette demeure qui est en notre corps. Il faut donc aimer et entretenir la dignité, l'harmonie, la chaste beauté de ce temple. Selon la chaste beauté de ce temple. Et citation du psaume 26, « Seigneur, j'aime votre demeure, le tabernacle où réside votre gloire. » Alors, selon le pape, nos corps sont temples de l'Esprit Saint, plus encore que la tombe de Pierre, alors qu'il va manifester la gloire de Dieu. Alors, on revient à ce que vous venez de dire. Il ne constitue nos corps chacun qu'une pierre vivante, du seul vrai temple de Dieu, qui est notre Seigneur ressuscité. Et par rapport à l'apostolat, ça c'est important. Par rapport à l'apostolat. Si nous voulons que l'Église entière apparaisse au monde comme cette demeure de Dieu, voilà, c'est à chacun de nous, pierre vivante, de crucifier spirituellement, notre chair, avec ses passions, ses convoitises. C'est tout petit peu comme la pierre qui doit être mise dans un édifice. Elle a besoin avant d'être taillée. Sinon, ça ne marche pas. Donc, une grande maîtrise de soi, pudeur, modestie et chasteté. Alors, entretenir la dignité, la chaste beauté, comme disait Pilouse, la chaste beauté de ce temple, voilà, par la noblesse de notre vie. Alors, le temple, c'est une citation du premier épître de saint Paul aux Corinthiens. Le temple de Dieu est sacré. Et ce temple, c'est bon. Vous avez été bel et bien acheté. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Pilouse n'a rien inventé. C'est une citation. Alors, si vous voulez bien, dans le temps, nous terminons ainsi ce chapitre sur la dignité du corps humain. Est-ce que vous l'avez trouvé difficile? Il n'y a pas beaucoup d'exemples, il n'y a pas beaucoup d'histoires, mais c'est comme ça.
C'est difficile.
D'inventer des choses. J'essayais, mais bon, je ne sais pas. Alors, nous terminons ainsi ce chapitre sur la dignité du corps humain, avec une pensée. Bon, une pensée de joie, pour la destinée glorieuse dans laquelle notre chair est presque déjà introduite. Et comment notre chair est déjà au ciel, tout simplement dans la personne de notre Seigneur et de notre Dame. Voilà. Et à la résurrection, le bon Dieu va transfigurer ou transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Aujourd'hui, nous avons vu que l'enseignement de l'Église sur la mode se fonde tout d'abord sur la doctrine concernant la dignité du corps humain. On commence avec des choses qui sont plus terre-à-terre, plus compréhensibles pour tout le monde. Voilà. Ça peut être compris par tout le monde. On a vu que l'homme est à la fois matériel et spirituel, qu'il est à l'image de Dieu et pour Dieu, et qui est destiné à être immortel. Voilà. Notre corps est destiné à être immortel. Même au ciel, maintenant, les âmes qui sont sans corps, bon, c'est tout petit peu curieux, parce qu'elles sont déjà dans la vêtue, en soi, il ne manque rien à ces âmes. Elles vont le bon Dieu, mais quand même, avec le corps, ça sera encore mieux. Encore mieux, parce qu'ils ne sont pas pleinement hommes. D'accord? Un homme, c'est âme et le corps. Le corps, ça sera la béatitude complète. D'accord? La dernière chose, le chrétien est le membre du Christ par le baptême, aussi le temple du Saint-Esprit. Alors, la prochaine fois, si vous voulez bien, on va toujours continuer avec le même tempo, si vous voulez bien, vous voulez accélérer, ça va pour le tempo?
C'est bien.
Ça va? Oui. Bien. Je préfère que justement, parce qu'il faut bien poser les fondements, vous voyez, parce que si on passe trop rapidement, ensuite, on peut passer assez rapidement les choses qui sont les plus importantes. Alors, la prochaine fois, on va voir que l'enseignement pontifical de Pie XII découle aussi des exigences de la morale chrétienne. Voilà.